En train,
le bébé est en train d'accoucher.
Voilà, voilà, exactement, c'est très joliment dit. Et donc l'appréhension, elle vient de là, mais sinon, c'est quand même beaucoup de plaisir avant tout.
Une joie de présenter son travail.
Ouais, et puis de travailler tous les jours à la chaise du haut. On a une équipe vraiment formidable, je crois qu'ils sont tous là, ils sont tous là dans la salle. Et du coup, travailler tous les jours avec eux, c'est une joie. Faire cette programmation, c'est une joie. Puis après, on ne va pas se le cacher, entre nous, il y a un peu de fierté quand même. Parce que moi, en tant que musicien, j'ai grandi avec une mythologie du festival de la Chaise Dieu. Et on signait la programmation une première fois.
Vous en écrivez quelques pages. Donc
voilà,
évidemment.
C'est une fierté.
Alors Boris, parler musique sans en entendre, ça serait évidemment très compliqué. On a la chance d'avoir un grand pianiste, un grand artiste avec nous ce soir. C'est Théo Fouchneret qui va nous accompagner pendant l'heure qui vient, sachant que on a une heure pour présenter le travail de quelques mois de réflexion et de peaufinage, on imagine, au quotidien.
Oui, voilà, on a une heure seulement, et puis on a Théo Fouchneret avec nous. Alors, je suis ravi à plus d'un titre d'avoir Théo Fouchneret avec nous. D'abord parce que c'est un immense pianiste qui a gagné le premier prix du concours Genève en 2019, et c'est pas rien. Et puis, à titre personnel, Théo et moi, on a eu la chance de commencer la musique ensemble à Nice quand on avait 2 ans et demi. Et donc, on se connaît depuis qu'on a 2 ans et demi. On a fait la même école primaire, le même collège, le même lycée, le même conservatoire à Paris, finalement le même conservatoire supérieur. Et c'est vrai qu'on a grandi ensemble. Et puis, et comme c'est devenu, ça a toujours été, mais c'est devenu un merveilleux pianiste, je suis vraiment très, très heureux qu'il puisse être là avec nous ce soir.
Va nous accompagner tout au long de cette soirée. On commence avec la sonate 21 de Beethoven. constat parce qu'en fait, je sais pas, j'ai oublié de vous le dire tout à l'heure, mais comme on est entre nous, qu'on a la chance d'avoir un grand pianiste, il aurait été dommage, c'est pas le cas, mais que ça soit interrompu par une sonnerie intempestive. Donc si vous ne l'avez pas fait, on va juste vous demander de le mettre en mode avion. C'est toujours dommage de perdre. C'est un peu comme à table quand on est en famille et que le téléphone sonne. Voilà. Gardons ce moment pour nous et ces instants si précieux qu'on est encore en train de vivre sur cette présentation de première. Donc programmation pour vous, Boris. Un mot aussi sur cette œuvre, Beethoven.
Bah, Beethoven, la sonate d'Einstein, c'est du Beethoven pur jus, c'est-à-dire qu'on sent qu'il y a cette ostination, cette obstination plutôt, même ce travail sur les thématiques poussées à l'extrême qui fait que le thème de cette sonate, c'est quatre notes qui se battent en duel. Et là où d'habitude on a des carrures de mélodie chez Beethoven, c'est quatre notes qui vous répètent jusqu'à ce que vous l'ayez bien dans la tête. Schubert disait que Beethoven serait éternellement de la musique contemporaine et je commence à penser qu'il a raison.
Alors Beethoven, il va être au cœur évidemment de plusieurs grands concerts. On sait qu'il y a une vraie tradition au Festival de la Chaix-Dieu, celle des grandes pages symphoniques, des grands ensembles. Beethoven, évidemment, quand on pense à ces grands concerts, on pense à lui avec un cycle qui va commencer dès cette année.
Oui, on va commencer cette année un cycle avec l'orchestre Consuelo qui a été fondé il y a 3 ans par Victor Julien Laferrière, qu'on connaît en tant que violoncelliste au Festival de la Chaise-Dieu, qui est un merveilleux violoncelliste, et qui entame une carrière de chef d'orchestre qui s'annonce vraiment prometteuse, et on a eu envie d'accompagner cette carrière-là. Et puis, c'est aussi une manière de tracer une perspective sur 4 ans au Festival, puisque dans 4 ans, en 2026, enfin dans 4 éditions plutôt, nous aurons nos 60 ans, les 60 ans du Festival de la Chaise-Dieu, c'est pas rien, 60 ans pour un festival. Et donc j'avais envie d'un projet qui parte de cette édition-là et qui aille jusqu'aux 60 ans. Et donc on va avoir ces 9 symphonies qui vont se décliner pendant ces
différentes éditions,
toujours avec l'orchestre Consuelo.
Et qui vont laisser une trace aussi. Vous lui faites totalement confiance, hein, c'est-à-dire que non seulement il vient pour la première fois à la direction de cet orchestre, mais vous lui confiez aussi un cycle d'enregistrement.
Oui, parce que ces 9 symphonies, on va les graver sur le label Pi-Record. Donc en fait, année après année, on va sortir le CD du live, en fait, à la Chaise-Dieu. Donc c'est une collection par la Chaise-Dieu, pour la Chaise-Dieu, à la Chaise-Dieu, 100% Chaise-Dieu. Et oui, on lui fait confiance, mais je pense qu'on prend un risque très calculé, dans le sens où Victor est un artiste complet, accompli, et qu'il a en plus une manière très forte pour mener un projet à son terme et mener un projet à bien.
Il s'applique toujours dans sa chanson et dans les projets qu'il mène, et donc ça sera un cycle Beethoven qui commence cette année avec déjà de très bons concerts pour cette 57e édition, puis les grandes pages symphoniques, ce sont aussi d'autres grands compositeurs, et puis d'autres grands orchestres. On aura la chance d'accueillir l'Orchestre National d'Île-de-France.
Oui, l'Orchestre National d'Île-de-France, c'est pas rien au Festival de la Chaise-Dieu, puisque c'est le premier orchestre qui a été invité d'Art Chiffra à la Chaise-Dieu. Alors c'était une autre appellation, puisque cet orchestre a beaucoup changé d'identité, en tout cas de nom, peut-être pas d'identité. Et donc on est ravis de continuer cette aventure avec eux, surtout qu'ils viennent avec Kay Scallion, qui est leur directeur musical. Et ils viennent dans un répertoire qu'ils affectionnent et que Kay Scallion affectionne particulièrement, puisque vous le voyez, ils vont donner pour l'ouverture du festival à la Chaise-Dieu la 5e symphonie de Mahler. Et puis ils joueront le lendemain un concerto de Rachmaninoff et un peu de Sibelius avec Théo Fouchonneret que vous venez d'entendre au piano. Ouais,
Rachmaninoff, une année anniversaire, hein, notamment.
Oui, une année anniversaire, c'est les 150 ans de la naissance de Rachmaninoff.
Les 80.
Et les 80 ans de sa mort, parce qu'il a eu la bonne idée de mourir dans un 3 à chaque fois, et de naître dans un 3, ça facilite les anniversaires. Et donc voilà, c'est une manière de, sans développer un hommage à Rachmaninoff sur tout le festival, une manière quand même de marquer le coup.
La 5e de Mahler, Boris, je me permets, mais il y a aussi un petit clin d'œil, c'est une œuvre monumentale, c'est un véritable feu d'artifice musical. Petite perche envoyée au directeur que vous êtes, il y aura une surprise à l'issue de ce concert.
Oui, on avait envie de faire de cette soirée d'ouverture un vrai moment de fête et de partage, et donc on va avoir effectivement un partage musical, mais la 5e de Mahler, c'est une œuvre monumentale, un effectif monumental, une œuvre très connue, puisque pour même ceux qui ne connaissent pas La Cinquième Nouvelle Heure, La Cinquième Nouvelle Heure, c'est la bande originale de Mort à Venise, le film de Visconti, et pas la nouvelle de Thomas Mann, le film de Visconti, vraiment. Et donc, ça va être un feu d'artifice dans la salle, et puis on fera un feu d'artifice aussi en sortie de concert pour cette soirée d'ouverture, pour marquer le coup et vraiment donner cette dimension festive qu'on a voulu.
Voilà, c'est une dimension festive qu'on va retrouver aussi à travers d'autres concerts et d'autres grandes pages symphoniques avec l'Orchestre National, cette fois des Pays de la Loire. On a parlé de ces grands compositeurs, là aussi des œuvres majeures de la musique.
Là aussi des œuvres majeures, et puis on parlait de l'héritage et de tracer des perspectives. Pour le coup, l'Orchestre National des Pays de la Loire est un nouvel orchestre à la chaise dure, en tout cas dans cette identité-là. C'est la première.
C'est un exploit, hein, 57 ans et finalement, pas de présence pour l'instant pour cet orchestre pourtant reconnu en France
et au-delà. Reconnu en France et on est vraiment heureux de les accueillir pour la première fois. Là aussi, ils viennent avec leur directeur musical Sacha Goetzel et ils vont donner deux grands concerts symphoniques, puisque évidemment, ils vont jouer la Symphonie du Nouveau Monde de Dvorak, qu'on n'a plus besoin de présenter, L'Oiseau de Feu de Stravinsky et puis les célèbres Nuits d'été de Hector Berlioz.
Boris, 7 concerts déjà dévoilés sur un peu plus de 30 qu'il y aura cet été à la Chaise Dieu et autour. 7 grandes partitions que des grands compositeurs. C'est quoi? C'est un goût pour ces œuvres, on va dire magistrales, ces œuvres essentielles de la musique?
Oui, c'est un goût et très affirmé et très, très assumé pour plusieurs raisons. D'abord parce que ces œuvres qu'on appelle peut-être des tubes parfois, souvent ça devient des tubes pour une raison très particulière. Qui fait que ce sont de grands chefs-d'œuvre du répertoire et que donc il convient d'y revenir régulièrement. Les symphonies de Beethoven, on n'a jamais fini d'en extraire tout ce qu'il y a à extraire. Et pareil pour toutes les œuvres qu'on a citées. Et puis, le festival habite un territoire qui est un territoire qui n'a pas accès à la grande musique symphonique tout le reste de l'année, à moins de prendre sa voiture et d'aller assez loin. Et donc, en fait, on a un devoir le temps du festival. C'est de proposer ces grands chefs-d'œuvre, parce que sans ces grands chefs-d'œuvre, finalement, il manque quelque chose dans la vie et on essaye tant bien
que
mal.
Il faudrait que chacun ait eu au moins la chance, une fois, d'en entendre l'une de ces très grandes partitions. Si je vous titille un petit peu, j'aurais envie de dire que vous n'avez pas pris beaucoup de risques, finalement, sur cette première édition. Est-ce que, là aussi, dans ces grandes œuvres, il n'y a pas un choix de, pas de la simplicité, mais de l'assurance?
Mais alors, premièrement, je ne vois pas pourquoi le concert devrait être un moment difficile. Et je ne vois pas pourquoi le concert devrait être un moment dont on sort toujours plein d'introspection et toujours plein de questions sur le sens de la vie, l'au-delà, la mort, la souffrance.
Parfois juste la musique.
Mais juste la musique, la joie d'être au concert, la joie d'être là, de partager tous ensemble des moments. Et la vie est assez pleine de contrariétés en ce moment pour pas qu'on s'en rajoute. En plus, quand on peut au contraire se faire du bien.
Alors évidemment, pour tout cela, pour cette joie, il faut avoir de grands artistes. Il y a des grands orchestres, et puis il y a aussi des solistes. Et tiens, c'est étonnant, de grands violonistes qui vont poser leur instrument ici à la Chaise Dieu. Pour ceux qui ne le sauraient pas encore, c'est un instrument qui vous accompagne quotidiennement.
Oui, et je serais tenté de dire qu'il n'y a rien de personnel, mais ce serait faux. Il y a évidemment quelque chose de très très personnel à avoir mis du violon.
Je voudrais te faire un peu plaisir, hein, pour le dire.
C'est le violon, c'est le plus bel instrument du monde. Désolé Théo, désolé pianiste.
On a quelques violonistes.
Et puis c'est un instrument extraordinaire. Et puis c'est une chance d'avoir tous ces grands artistes, tous ces grands violonistes au festival cette année.
Pas n'importe lesquels. Hein.
Pas n'importe lesquels. On voit Renaud Capuçon, c'est une chance pour le festival d'accueillir à nouveau un grand artiste international. Figure de proue de la musique française dans le monde entier, et c'est une chance de le recevoir à la Chaise Dieu, de recevoir ce qui se fait de mieux dans le monde entier, de le recevoir à la Chaise Dieu.
Au violon et à la direction, là aussi.
Oui, au violon et à la direction, et on voit que l'orchestre de l'Opéra Lyon s'affiche devant nous. Et, alors le directeur de l'Opéra Lyon est dans la salle, donc en plus il y a un focus à faire sur cet orchestre, évidemment, puisque c'est la première fois que l'orchestre de l'Opéra Lyon vient à la Chaise Dieu, c'est une grande première. C'est quelque chose dont on est très
fier. Pour ses 40 ans.
Pour ses 40 ans en plus. Et l'orchestre de l'Opéra Lyon va venir avec son directeur musical, là aussi, Daniele Ruschioli, qui est un chef extraordinaire, une grande star internationale. Et ils vont venir dans un programme, là aussi il y aura du violon, mais je ne pouvais pas résister, avec Francesca Dego, qui est une merveilleuse violoniste, qui va faire peut-être le plus beau concerto pour violon en plus, Wilmer Nelson.
Quand on ne connaît pas, ou très peu, finalement, par rapport à évidemment un grand nom comme Renaud Cabusson, et qui pourtant est quelqu'un qui est déjà très réputé, qui a une véritable carrière, notamment de l'autre côté de l'Atlantique.
Oui, elle a une carrière vraiment florissante outre-Atlantique, puisqu'elle a gagné un des plus grands prix possibles aux États-Unis au concours d'Indianapolis. Et c'est vraiment une violoniste extraordinaire et je suis très très heureux de pouvoir l'avoir à la gestion.
Andy Mendelssohn, vous l'évoquiez à Boris, et puis une découverte des partitions pourtant fleuve hein, de Wagner.
Oui, parce que on va avoir dans ce même programme le Ring sans parole, qui est en fait un poème symphonique composé par Laurin Maazel, immense chef du XXe siècle, qui a eu la très riche idée en fait de rassembler la tétralogie de Wagner, qui est un ensemble de quatre opéras, il y a entre 13 et 16 heures de musique, et de les rassembler en une heure. Alors les mauvaises langues diront que c'est beaucoup mieux en une heure, et en tout cas c'est une version qui est très très réussie, et ça fait vraiment faire un voyage, parce que la tétralogie c'est toute une histoire, et là on fait toute l'histoire en une heure, et c'est une vraie réussite cette œuvre.
Puis un autre concert que... Là, pour la petite confidence, peut-être pour ceux qui sont avec nous, c'est de prendre tout de suite l'agenda et peut-être de noter cette date du 20 août à la Chaise-Dieu, parce qu'on a une véritable histoire de famille qui va se dérouler devant nous avec un grand pianiste, un grand chef et un grand orchestre.
Oui, un grand orchestre qui est notre partenaire historique, l'Orchestre National d'Auvergne, qui est à la Chaise-Dieu tous les ans depuis bien longtemps, et qui a été fondé... par Jean-Jacques Kantorov, en tout cas Jean-Jacques Kantorov a été le premier directeur musical de renom et important à faire travailler cet orchestre, et pendant qu'il était à Clermont, est né Alexandre Kantorov, donc Alexandre Kantorov, un des plus grands représentants du piano français à l'international, et donc clermontois. Et on va avoir la chance de le voir faire ses débuts à la Chaise-Dieu cette année, avec deux, là aussi, immenses musiciens, Lia Petrova et Aurélien Pascal, un programme autour du triple concerto de Beethoven, et ça va être un vrai événement au Festival de la Chaise-Dieu.
C'est une véritable ambiance aussi, hein, finalement, Boris, familiale. On sait que, et on entendait Gérard le rappeler tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on ne veut pas faire, ça ne doit pas être un rendez-vous réservé à quelques-uns, c'est le moment des émotions, c'est le moment du partage. Il y a aussi dans cette histoire familiale quelque chose, et puis un peu de chauvinisme aussi, mais quand c'est... Ça vient d'Auvergne, on sait que l'Orchestre National d'Auvergne en ce moment est à Tokyo. C'est aussi les grands musiciens de notre région qui s'exportent, et ce pianiste en est un très très bel exemple.
Oui, bien sûr, un festival, ça a vocation à créer des rencontres, mais là dans le cas c'est des retrouvailles, et à créer en tout cas des alchimies qui vont au-delà d'une série de concerts, et là clairement ils se retrouvent pour ce concert précisément. Et voilà, c'est des retrouvailles suscitées par le festival, pour le festival, et c'est une vraie chance.
Voilà, a priori, un très très beau concert qui s'annonce le 20 août prochain. Et puis, le deuxième, peut-être, plus beau instrument du monde, je ne sais pas, on s'en demandera peut-être à Théo. Beaucoup de piano, évidemment, pas de Chaise-Dieu, sans Xifra. Xifra, c'est le piano, c'est aussi son lieu.
Oui, bien sûr, la Chaise-Dieu, de par son héritage qui est lié à son fondateur, Xifra, est une des places fortes du piano en France, en tout cas un des festivals importants pour le piano, et je veux dire, l'accueil qu'on a avec qu'on fait aux grands pianistes tous les ans, et cette année encore ça ne fera pas exception parce que Alexandre Tarot et François Dumont sont deux des plus grands noms du piano français, et ben ça prouve cette place forte qu'est la Chaise-Dieu pour le piano.
Avec des orchestres qui les accompagnent, l'Orchestre National de Lyon, et puis un très bel orchestre qu'on aime toujours en fait écouter ici à la Chaise-Dieu, parce qu'il a une énergie folle, il a une fraîcheur aussi qui est intéressante, c'est l'Orchestre Français des Jeunes.
Oui, c'est un orchestre qui a un certain nombre d'années maintenant, et qui depuis sa fondation, en fait, est un véritable promoteur de tous les jeunes talents français, musiciens, et on a en France une des plus belles formations pour les musiciens, en forme des musiciens extraordinaires. Et en fait, l'Orchestre Français des Jeunes réunit tous ces plus beaux talents, et en fait, les fait travailler pendant un mois, et rayonne vraiment à l'international, c'est pas seulement une fierté française, c'est un orchestre qui rayonne beaucoup. Après la Chaise-Dieu, ils partent à Berlin jouer à la Philharmonie, et... C'est à chaque fois une qualité assez extraordinaire.
Et là aussi, pour des très belles œuvres, hein, vous avez dit Ravel, et puis Roméo et Juliette de Prokofiev, voilà, qui s'annonce donc pour cette édition du Festival de la Chaise-Dieu. Avant de vous réécouter, Théo, sur des œuvres donc, et un atelier musical, un petit mot, évidemment, quand on est pianiste, venir à la Chaise-Dieu, on parlait de l'héritage de Xifrin, c'est quelque chose auquel on pense.
Oui, mais encore une fois, dans un lieu chargé d'histoire comme ça, l'aura de Xifra vraiment transpire, et je ne peux pas m'empêcher de penser qu'il a été à ma place et a fait des choses extraordinaires à la création de ce festival. Puis j'ai moi-même un lien particulier avec la Hongrie, c'est une musique que j'apprécie énormément, et j'apprécie également la liberté de leurs musiciens, et je pense que Gheorghe Xifra est l'incarnation même de la liberté sur un piano.
Il vous a accompagné au fil du temps et de votre apprentissage du piano?
Oui, c'était évidemment un exemple, même si de son temps au conservatoire on le traitait de saltimbanque, mais vraiment à tort. On s'aperçoit maintenant à quel point il a influencé les pianistes au niveau mondial, même ne serait-ce que pour citer Wu Jiawang qui joue un nombre de ses transcriptions. Il laisse un héritage extraordinaire.
Alors Théo, juste avant de vous écouter, un mot sur ce qu'on va maintenant entendre, plusieurs interviews successifs autour de la musique de Tchaïkovski.
Alors oui, tout à fait, je vais jouer, ce sera un petit peu séparé, mais trois extraits des saisons de Tchaïkovski, qui est un recueil de 12 pièces, autant de pièces que de mois de l'année. Donc je vais vous interpréter juin, novembre et décembre. Alors juin, c'est une barcarolle très mélancolique, qui transpire un petit peu l'âme russe qui nous fascine tant. Et ensuite, novembre est étonnamment joyeux, puisque c'est une balade sur un attelage de chevaux dans la neige, la Troïka. Et ensuite, il terminera en grand amateur de ballet, décembre, par une valse qu'il écrit si bien.
Eh bien, on vous écoute. Thank you. Alors Boris, je ne sais pas comment, dans quel état d'esprit la 37e édition du festival. Avec vous, alors excusez-moi du jeu de mots, mais finalement cette 57e édition, ça c'est la comeback de Jean-Sébastien.
Oui,
c'est un peu nul. J'espère que les concerts seront meilleurs.
Je pense que notre président a apprécié le jeu de mots, en tout cas.
C'est bon maître.
Il en est fort. On a parlé de Beethoven plus tôt, et une fois qu'on a parlé de Beethoven, est-ce qu'on peut se faire l'économie de parler de Bach? En tout cas, moi, c'est les deux piliers qui ont toujours rythmé ma vie musicale et en tant qu'interprète et passionné, pur et dur. Et je pense qu'on ne peut pas faire l'économie de toujours revenir à Bach.
Si je parle de comeback, c'est parce que l'année dernière, il n'y a eu qu'un seul concert de Bach, assez peu finalement.
Il y en a eu assez peu l'année dernière et voilà, c'était assez important de toujours revenir à Bach. Et puis en plus, cette année, on va avoir le plaisir et le privilège de recevoir le Dunedin Consort, qui est un ensemble écossais qui nous vient d'Édimbourg et qui, pour le coup, a fait de l'interprétation de Bach une spécialité. Qui défend une manière de l'interpréter extrêmement précise, extrêmement historiquement informée et très très passionnée à la fois. Et donc ils vont venir pour deux concerts, à la fois La Passion selon Saint-Jean, qu'ils ont gravé sur un magnifique CD, et puis aussi le Magnificat de Bach, le lendemain, qui vont être vraiment deux concerts qui sont ce que Bach a offert de mieux. Bach a offert beaucoup de choses extraordinaires, mais je crois que la Passion Saint-Jean, quand même, et le Magnificat, ça fait partie des plus grandes œuvres.
Deux partitions à l'intensité spirituelle, sacrée, évidemment, très très forte. Et puis, Bach, c'est aussi beaucoup de diversité, et notamment, on va le découvrir avec les suites de Bach, on est dans un registre totalement différent.
Oui, parce que la grande affaire avec Bach, et comme avec Beethoven d'ailleurs, c'est que tout ce qu'ils ont touché, ils l'ont révolutionné. Et que Bach a révolutionné vraiment tous les domaines qu'il a abordés, et notamment les suites de danse, puisque bon, alors les suites de Bach, c'est donc des suites de danse pour violon, écrites pour violoncelle seul, mais c'est des danses qui n'ont jamais été écrites pour être dansées. On ne va pas faire un grand bal dans la basilique Saint-Julien à Brioude, c'est vraiment des danses qui sont destinées à être écoutées, et ça va être un concert assez extraordinaire par un magnifique violoncelliste, Bruno Philippe, qui est un habitué de la Chaise Dieu, qui est venu plusieurs fois déjà et qui nous a enchantés plusieurs fois. Et ça va être un concert qui est presque une performance physique et intellectuelle, parce qu'il est donc seul avec son violoncelle pendant plus de 2 heures. Et il y a quelque chose de l'ordre, même si ce n'est pas de la musique sacrée, il y a quelque chose de l'acte de foi quand même à faire ça.
Bach, c'est donc évidemment la diversité des grandes œuvres sacrées, et puis du violon, de nouveau, ça c'est curieux.
Toujours, toujours. Non, et puis c'est l'occasion de recevoir l'Orchestre national d'Auvergne avec son nouveau directeur musical, Thomas Zietmaier, qui est un merveilleux violoniste que j'ai beaucoup admiré, que j'admire toujours beaucoup. Et c'était l'occasion pour lui de venir pour une première fois à la Chaise Dieu, et on avait très envie de recevoir, et c'est un programme qui va parfaitement à l'Orchestre d'Auvergne.
Et puis la grosse surprise, Bach's Groove, les gens ne rêvent pas, il a bien marqué ça, et le trio Paul Lay, on est dans du jazz.
Oui, le premier concert de jazz à la Chaise Dieu. Alors, rassurez-vous, ça reste du jazz très éduqué. C'est un magnifique pianiste de jazz, Paul Lai, et il a construit un programme autour de l'héritage de Bach par les pianistes de jazz. Et c'est quelque chose qui paraît très distendu chronologiquement, mais les pianistes de jazz, notamment Oscar Peterson, dont il jouera une composition, ont réellement revendiqué l'héritage de la musique pour piano et de la musique en général de Johann Sebastian. Et Paul Lai a construit un programme où il y a une composition de lui sur un prélude de Bach, il y a une composition d'Oscar Peterson et plusieurs œuvres de Bach interprétées de manière jazzy.
Voilà, ça c'est pour la petite prise de risque finalement qu'on attendait aussi, cette ouverture à d'autres style de musique sans être dans le grand écart absolu, on l'a bien compris. Et puis la Chaise Dieu, c'est évidemment aussi la musique sacrée. Pas d'impasse possible évidemment pour cette 57e édition comme toutes les autres. Là c'est intéressant aussi, un focus sur des lieux qui ont cette intensité spirituelle. La cathédrale du Puy en pré-ouverture.
Oui, on fera notre pré-ouverture à la cathédrale du Puy, donc le jeudi 17 août. Avec Hervé Niquet et le concert spirituel, qui vient d'ailleurs faire un programme autour des Coronation Anthems,
Vous avez beaucoup révisé.
J'ai beaucoup
révisé. Vous pouvez le refaire.
Non. Une seule fois. Non, c'est un programme magnifique qu'ils ont gravé sur un très très beau CD et qui sera l'occasion, 3 mois après le couronnement de Charles III, c'est ça, hein, Charles III, de nous replonger.
Je suis assez nul dans ce genre de choses, ne me posez pas la question.
Je ne peux pas rattraper. Et ce sera une belle célébration de ces musiques. En fait, on a fait un focus sur des musiques sacrées qui ont été écrites à la cour du roi d'Angleterre. Puisque après, on aura aussi le Missi de Handel à l'abbatiale, par un ensemble qui vient pour la première fois, un magnifique ensemble, la Chapelle Harmonique, dirigé par Valentin Tourné, qui est un magnifique ensemble et qui donc viendra nous interpréter ce chef-d'œuvre que Handel a écrit quand il était en Angleterre. Et puis, un lieu où on va.
Juste la Chapelle Harmonique, il n'y a pas un truc, c'est pas eux, le Messi Gate?
Si, c'est eux qui.
Rassurez-nous là.
C'est le Messi Gate à Radio France, puisque un des solistes avait dû déclarer forfait au beau milieu de la représentation et que quelqu'un qui était dans le public était venu remplacer à pied levé. Angie, il y a une très bonne vidéo sur YouTube, si vous voulez, je vous le conseille.
Un jean basket, vous aurez des vêtements de rechange au cas où.
On a toujours
peut-être mieux à la Bastiade. Et puis, un nouveau lieu de concert aussi. On sait que c'est une attention particulière du festival à aller à la rencontre de nouveaux publics et parfois de nouveaux territoires.
Oui, vous le savez, le territoire, le festival de la Chaise-U, il rayonne sur tout son territoire. Et à la manière du fait qu'on aille au Puy-en-Velay tous les ans, à la manière du fait qu'on visite Brioude de tous les ans, on ira cette année à Montbrison pour la première fois, dans la magnifique collégiale Notre-Dame, qui fête ses 800 ans cette année. Et on a pensé tous ensemble que c'était un événement magnifique à fêter. Voilà, premier concert de la Chaise-U pour les 800 ans de la collégiale. C'est un lieu absolument unique, monumental, et on aura un très beau programme autour des odes à Sainte-Cécile, celle de Purcell et celle de Blow, par l'ensemble des surprises, dont voilà, le chef est Louis-Noël Bestion de Camboulas. Et c'est un habitué de la Chaise-Dieu maintenant, puisqu'il est venu plusieurs fois avec l'ensemble des surprises, et il était venu aussi lui tout seul en tant que jeune organiste, il y a de cela quelques années.
Il y a des concerts remarqués, il y a une véritable joie, une énergie assez folle hein, sur...
Voilà, on parlait du concert qui ne plombe pas, et bien clairement les surprises, ils communiquent une joie de faire de la musique, ça c'est important, et je pense que le public le ressent très fort, quand les musiciens sont heureux d'être sur scène et de faire de la musique, et voilà, ça va être un magnifique événement.
Voilà, pour les autres, la Sainte-Cécile, c'est la sainte patronne des musiciens, évidemment, c'est aussi un beau clin d'œil que de choisir un ensemble qui a cette dynamique et cette joie communicative, et puis la voix. Là aussi, qui s'est fait une place petit à petit au Festival de la Chaise-Dieu, qui aujourd'hui est devenu quasiment un incontournable. Certains sont dans les Static Blocks pour découvrir quelles seront les œuvres proposées pour des ensembles vocaux.
Oui, et puis ça fait partie de ces héritages dans lesquels on se glisse avec plaisir, cet héritage de la voix, parce qu'il y a une vraie tradition du chœur et de la musique chorale au Festival de la Chaise-Dieu. Il s'agit de l'honorer. Et c'est ce qu'on fait cette année avec notamment là, il y a un grand concert à la Chaise-Dieu, voilà, auquel je tiens beaucoup, on en a parlé, mais Splendeur Chorale, c'est notamment, il y aura le concerto pour chœur de Schnittke. Alors c'est une œuvre exigeante.
Là, pour le dit comme ça, je suis pas sûr que vous ayez embarqué tout le monde là.
Alors, non, Schnittke c'est un compositeur assez méconnu, un compositeur soviétique, et qui a composé un concerto pour chœur pour 42 choristes, et j'avoue que quand Léo Varinsky m'a proposé le programme, ma première réaction n'a pas été de dire « Écoute Léo, formidable, vas-y, on va faire un concert extraordinaire. » J'ai d'abord dit « Écoute, je vais écouter et je te rappelle. Bon, » J'ai écouté et...
Vous l'avez rappelé.
Je l'ai rappelé et c'est une œuvre absolument extraordinaire que Schnittke a écrit sur des textes de Grégoire de Narek, qui est un moine poète arménien du XIe siècle. Là encore, comme ça paraît un peu ombrageux, hein, le moine poète arménien du XIe siècle, mais... Il y a un vrai ressenti en plus avec l'actualité aujourd'hui. Et il y a une vraie profession de foi de la part de Schnittke, qui a eu un rapport très étrange à la foi tout au long de sa vie, qui a beaucoup cherché de beaucoup de côtés de la foi. Et il y a une vraie une profession, vraiment quelque chose qui dit ce à quoi il croit, et il le dit en musique, et il le dit avec ferveur. Et c'est une œuvre extrêmement émouvante.
C'est aussi des différentes traditions vocales. On le voit donc au travers de ce concert avec les métaboles et puis avec aussi l'école anglaise, j'ai presque envie de dire, notamment pour un concert qui aura lieu à Saint-Paulien.
Oui, l'école anglaise qui est très différente de l'école française de chœur, puisque le chœur français a tendance à accentuer l'individualité de chaque chanteur, à proposer un chœur très engagé à chaque individualité qui compose un ensemble, alors que le chœur anglais a tendance à vouloir fondre l'individualité dans un même ensemble, avec notamment un travail sur le non-vibrato qui est très important chez les ensembles anglais. Et c'est vrai que les Jesuit Ado Six, c'est vraiment un exemple assez chimiquement pur de l'école anglaise de l'ensemble vocal. Et on est très heureux de les accueillir à Saint-Paulien, d'autant plus que Saint-Paulien, moi depuis que je suis arrivé, on m'a dit, tu vas voir, à Saint-Paulien, il faut mettre de la voix, il faut mettre de la voix. Et comme je suis un garçon
Discipliné.
discipliné, vraiment,
Ou à l'écoute, on va
à
dire.
l'écoute, voilà,
C'est mieux, à l'écoute, à l'écoute.
je suis allé à Saint-Paulien et effectivement la voix marche absolument merveilleusement bien à Saint-Paulien. Et donc c'est avec plaisir qu'on continue cette tradition.
Et puis, certains sont peut-être surpris, du jazz, de la pop. Qu'est-ce qui vous arrive?
Non. Alors,
Les Beatles.
Oui, An Evening with the Beatles, parce que c'est
Une
Nicole
soirée
Porting
avec eux.
et le magnifique Chœur Spirito qui en fait sont en train de créer un programme, il n'est pas encore créé, sont en train de créer un programme où elle a demandé à plusieurs compositeurs contemporains de travailler sur des chansons des Beatles, certaines connues, d'autres beaucoup moins, et en fait de tracer une ligne entre la musique populaire, parce que quoi de plus populaire que les mélodies des Beatles, et puis un travail vraiment, comment dire, savant, souvent une musique savante, sur la polyphonie, sur le rôle de chaque voix, et de faire de chaque chanson une véritable œuvre de musique savante. C'est quelque chose que, d'une certaine autre manière, Bartók ou Komitas ont fait avant.
Un petit mot sur les titres de concert. Qu'est-ce qui vous est arrivé? On a God Save the King, on a là An Evening with the Beatles. On aura d'autres surprises aussi tout à l'heure.
Qu'est-ce qui nous est arrivé? Déjà, on a beaucoup travaillé. Ça a été d'intenses séances de brainstorming, les titres des concerts. Et puis, non, mais c'est toujours cette idée d'être ouvert, c'est-à-dire de donner envie. Il faut rendre le Festival de la Chaise-Dieu et la musique classique toujours plus désirable. Voilà. C'est comme finalement, on n'a jamais fini d'attiser le désir. Et ben, dans un festival, c'est pareil. Et ça passe par absolument tous les aspects, et notamment les
C'est
titres.
comme un bon film, finalement.
C'est comme un
Il
bon
faut
film,
donner envie d'aller le
évidemment.
voir.
Évidemment, un bon roman, un titre de roman, trouver un titre de roman, c'est un talent à part entière.
Et bien, on continue à en parler tout à l'heure, notamment aussi autour de la musique de chambre. C'est juste après un nouvel interlude musical. On était en juin tout à l'heure. Cette mélancolie qui laisse la place à la joie de novembre avec vous, Théo. Bon baiser de Leipzig, conte de fées, blues. Voici le fruit de vos brainstorming. Donc, pour nous amener dans une musique évidemment que vous voulez, en tout cas le plus accessible possible, avec cette vraie tradition des quatuors, cette vraie tradition de petits ensembles français.
Oui, il y a plusieurs volontés dans cette même volonté, beaucoup de volonté, hein, de mettre de la musique de chambre. Qui est qu'en fait, on est ici dans l'auditorium Jiffra, qui est une salle absolument extraordinaire, et notamment pour les petits ensembles. Et ces petits ensembles permettent un rapport du public plus intime avec la musique et avec l'artiste. Et donc, en fait, on avait envie, dans la programmation, de promouvoir. Et surtout qu'on a la chance, en France, de bénéficier d'une formation de musiciens de chambre absolument extraordinaire. On a notamment parmi les meilleurs quatuors du monde, on a une école de quatuors à cordes absolument extraordinaire. Et on a des musiciens fabuleux qu'on voulait mettre en exergue. Et donc, l'accueil de plusieurs quatuors, donc le quatuor Van Cuyck que vous voyez là ici, et puis d'autres artistes. Alors, il y a d'autres quatuors qu'on a dans le slide d'après, donc j'aurais peut-être dû lui prendre d'une autre manière.
N'empêche qu'il y a quand même aussi un lieu dont il faut parler, c'est le moulin de Noirat, un lieu peut-être que certains ici découvrent en disant, tiens, je ne l'ai encore jamais vu dans la programmation du Festival de la Chaise-Dieu.
Oui, c'est un lieu dans lequel on va pour la première fois. C'est en fait un lieu qui a été inauguré il y a moins d'un an à Noirat, dans le Puy-de-Dôme, par notre mécène Clé de Voûte, la Fondation Embrun. Et en fait, c'est un lieu absolument magnifique, au milieu de champs, de quelque chose de très bucolique. Et il y a tout un ensemble de gîtes et de logements et un petit auditorium d'une centaine de places, qui est un bijou aussi bien acoustiquement que dans l'ambiance qui est transparée. les musiciens adorent y jouer et nous on adore y aller, y faire jouer les musiciens, puisqu'on y a fait beaucoup de sorties de résidence déjà, et à chaque fois c'est des moments extraordinaires. Et c'est la première fois donc qu'on ira dans ce bel auditorium pendant le festival.
Ça joue beaucoup évidemment, hein, les lieux que vous évoquez, hein, cet auditorium. Enfin, je sais pas, c'est sans doute un peu comme moi, mais quand on entend aussi les respirations de Théo, quand on sent la musique d'une autre manière, c'est vrai que ça permet ça aussi. C'est la vraie musique vivante, en fait, au travers de ces concerts. Boris, vous commenciez à parler de cette école française. On a des approches aussi très différentes, et on va pouvoir le découvrir au travers de concerts, avec le quatuor Harrod et le quatuor Hanson, et puis le quatuor Harrod Hanson, ça fait un peu cabinet de conseil, mais c'est plutôt de la très bonne musique.
Oui, et c'est on parlait d'héritage d'école française du quatuor à cordes, et les quatuors Harrod et les quatuors Hanson, ce sont deux exemples assez chimiquement purs de ce qu'est l'école française de quatuor et de ce que peuvent être les particularités à l'intérieur de cette école. Moi, j'ai eu la chance de bien les connaître, puisqu'ils étaient au CNSM un peu en même temps que moi, et ces deux ensembles absolument magnifiques. Et ils ont la particularité d'avoir fait absolument les mêmes concours et d'être restés très très copains. Ce qui n'est pas toujours, évident. Et donc en fait, on a la chance de pouvoir les avoir un groupe donc le mardi, un groupe le jeudi et le mercredi. Ils vont se retrouver et ça fait partie de ces moments que doit susciter un festival, c'est-à-dire des moments de rencontre dans un été où finalement ils vont passer des étés les uns des autres parce qu'ils ne font cette octuor qu'une fois dans leur été et qu'une fois dans leur année. C'est à la chaise Dieu, c'est la chaise Dieu qui suscite cet ensemble éphémère, et ça va être un vrai très très beau moment de musique et là encore de joie.
Et puis de grands quatuors, de grands solistes aussi, avec du piano encore, de la guitare, ça c'est intéressant, et du violon évidemment.
Oui, de la guitare, Philippe Moratoglou qui est bien connu des festivaliers, qui va se produire dans un lieu là aussi très attendu et très connu des festivaliers, puisque c'est l'église de Saint-André à Lavaudieu, qui est un lieu absolument extraordinaire pour ceux qui le connaissent.
Qui permet une place assez exceptionnelle en très peu de temps, finalement.
Oui, oui, parce qu'il y a une ambiance qui est absolument magique à Lavaudieu. C'est une toute petite église d'une beauté saisissante, avec un cloître saisissant. Et il y a une ambiance très particulière. Moi, l'année dernière, j'ai découvert ce lieu, et c'est vrai que je n'ai jamais écouté de la musique comme à Lavaudieu, et la guitare, ça s'y prête tout particulièrement.
Nuit à Buenos Aires, à Lavaudieu.
Les titres.
Et puis les quatre saisons.
Les quatre saisons de Vivaldi, donc ça c'est une œuvre.
Grosse découverte.
C'est une œuvre qu'on redécouvre au Festival de la Chaise Dieu. On a exhumé les manuscrits, on a à cœur de faire découvrir le jeune répertoire. Mais on va accueillir.
Le compositeur qui pourrait faire parler de lui, hein, peut-être.
Ah, voilà, Vivaldi va faire parler de lui, j'en suis sûr. Vous avez le nez creux, Stéphane.
Je sais.
Non, mais c'est avec en plus un orchestre de chambre magnifique, l'orchestre de chambre de Salzbourg, une jeune soliste française qui a été nommée révélation du Victoire de la musique il y a un an. Et donc, c'est vraiment un très très bel ensemble. Et puis, il y a un complément de programme auquel je tiens beaucoup, qui sont les 4 saisons de Buenos Aires de Astor Piazzolla. Et qui en fait sont, pour moi, c'est une œuvre assez importante parce que ça prouve que Piazzolla n'est pas seulement un compositeur mineur destiné à faire des milongas et des choses peut-être un peu dévaluées, mais c'est un vrai grand compositeur qui écrit très bien pour les instruments et qui a une vraie vision de la musique.
Et bien voilà, pour ces concerts qui continuent à être dévoilés pour cette soirée autour de la 57e édition, et dans un instant, on va parler évidemment de ce projet qu'évoquait Gérard, ces générations chez Dieu. C'est juste après un petit détour au mois de décembre en compagnie de Théo Fouchneret pour une composition de Tchaïkovski. Thank you. projet, donc qui est vraiment un projet de portée, on l'a compris, en lien avec le conseil d'administration du festival, faire rayonner dans la durée, dans évidemment les années qui viennent, le festival de la Chaise Dieu autour de Génération Chaise Dieu.
Oui, Génération Chaise Dieu, c'est un projet qui m'est très cher cette année. Alors, j'ai pas trouvé le mot, ça fait un an que je cherche, mais qui a envie de faire du Festival de la Chaise Dieu et pour les années à venir, un véritable incubateur de jeunes talents et qui a vocation à nous permettre d'avoir, avec toutes les jeunes générations de musiciens qui arrivent en France et qui se forment et qui sont toutes plus talentueuses les unes que les autres, d'avoir un rapport très privilégié, de leur permettre à eux de se révéler au festival, de travailler, à nous de les connaître et au public, à la fois de les rencontrer avant qu'ils deviennent des grands noms, c'est-à-dire qu'au Festival de la Chaise Dieu, on aura les grands noms de demain et ceux d'aujourd'hui, ce qui est une chance extraordinaire. Et puis effectivement, Gérard l'a dit, c'est un projet de territoire aussi, et c'est la volonté de mettre la grande musique et le Festival de la Chaise Dieu à portée de tous et de toutes, et c'est très très important.
Comment ça va fonctionner finalement cette génération Chaise Dieu, trois artistes et des académiciens?
Alors très concrètement, on va accueillir trois groupes, trois jeunes ensembles de musique de chambre qui sont fin d'études, début de carrière, ce moment très précis où le jeune musicien a toujours un peu de mal, non pas à
donc
se
déjà
situer lui, parce qu'il
est très haut niveau.
Déjà évidemment de très très haut niveau et qui est à l'aube d'une grande carrière. Et donc on va les accueillir pendant toute la durée du festival. Ils vont travailler au festival, ils vont avoir chacun un cours tous les jours avec un des trois artistes en résidence que l'on va avoir pendant le festival, vous les avez vus avant. Il s'agit de Pierre Fouchouneret, de Lise Berthaud et de Romain Descharmes. Donc c'est trois artistes parmi vraiment ce qui se fait de plus prestigieux en France. Donc tous ces cours tous les jours seront en accès libre dans le festival de la Chaise Dieu. Chacun pourra venir voir un moment de musique, un moment d'échange entre un artiste déjà très confirmé et des jeunes artistes très talentueux et très prometteurs. Et puis, Gérard l'a dit, tous les soirs, il y aura un ou deux concerts qui seront, vous voyez derrière moi, sur beaucoup de lieux dans le territoire, en Haute-Loire et dans le Puy-de-Dôme. Certains des représentants des communes qui accueilleront les concerts sont ici. Et c'est un vrai projet d'échange, de partenariat et un vrai projet de territoire.
Ouais, des concerts gratuits, évidemment, pour qu'ils soient aussi accessibles au plus grand nombre, gratuits comme d'ailleurs des auditions d'orgue. Là aussi, ça fait partie des traditions, on a beaucoup parlé de traditions de passé, mais aussi donc d'avenir à l'instant. L'orgue a toute sa place, pas de xifre à la Chaise Dieu, en tout cas s'il n'y avait pas eu cet orgue à restaurer.
Évidemment. Et puis tous les concerts à la Chaise Dieu, vous le savez, commencent par une grande sonnerie d'orgue. Et c'est un moment privilégié que tout le monde attend, et bien sûr évidemment ça va continuer. Et puis ces auditions d'orgue, parce que une orgue c'est pas seulement un instrument de musique, c'est aussi un véritable morceau de patrimoine, et tous ces orgues qu'on fait jouer pendant le festival, et ben c'est important de les montrer, parce que souvent ils sont un peu cachés dans les églises, on a tendance à pas les voir, alors que c'est toujours des véritables morceaux d'histoire. Un orgue, c'est toujours un morceau d'histoire. Et il faut les mettre en valeur, il faut continuer à le faire.
Dans des lieux comme l'abbatiale Saint-Ostremoine d'Issoire, qui est une magnifique abbatiale, ou encore Saint-Paulien qu'on évoquait tout à l'heure, et l'abbatiale Saint-Robert de la Chaise Dieu. Puis, on ne va pas tous les citer, mais de très nombreux rendez-vous gratuits, là aussi, assez divers aussi, pour une approche qui soit accessible à tous, notamment le concert du kiosque au Jardin Henri Guinée au Puy.
Oui, parce que le festival de la Chaise Dieu, c'est donc 37 concerts payants. Mais c'est aussi un grand nombre d'événements en accès libre qui sont destinés à ouvrir le festival et à ne jamais mettre de barrière entre le public et le festival. Et donc chacun peut se saisir du festival de la manière dont il le souhaite. Et notre but, c'est de fournir le plus de manières possibles de se saisir de ce magnifique événement.
De nombreux concerts gratuits, mais pas que. Et puis, inflation oblige, Boris, évidemment, vous avez été obligé d'appliquer une augmentation assez faramineuse de 0 euros.
0 euros sur les tarifs. Et je tiens à dire que cette non-augmentation, c'est un véritable geste du festival, parce que vous le savez, non seulement tout coûte plus cher, mais en plus, la Chaise Dieu, c'est pas la porte à côté de tout. Et donc, nous, chez nous, pour venir chez nous, il faut forcément eh ben, venir d'abord en train, après prendre la voiture. Et donc, ne pas augmenter le prix du billet pour nous, c'est un véritable effort, c'est un geste envers le public, c'est une manière de dire venez, venez chez nous.
Voilà, aussi un choix avec plus de lisibilité dans les tarifs, ça va de 8 à 90 euros, et puis une incitation pour le jeune public, moins de 28 ans.
Oui, 50% de réduction sur tous les billets, quel que soit le concert. On parle souvent de renouvellement du public, et ben nous à la Chaise Dure, on essaie d'être concret dans cette volonté et de dire cohérentement, voilà, il y a une incitation, c'est une des incitations, il n'y a pas que l'incitation financière, mais c'est vrai que c'est forcément quelque chose qui compte. Et voilà, nous, on applique ça, on continue de le faire, et c'est très très important pour nous.
Voilà, tout ça, ça va être proposé au public dès le 15 avril, c'est samedi, hein, à partir de 14h30, une ouverture uniquement, pour l'instant, pour les membres de l'association, les chanceux qui pourront choisir les premiers concerts. Tiens, si vous conseillez quoi? Il faut cliquer sur quelle date du calendrier en premier?
Il faut cliquer sur toutes. non, mais le bonheur de la Chaise Dure, c'est de pas avoir
à choisir. Vous êtes de Nice.
Alors, profondément niçois. Non, moi, si j'en ai un, là, aujourd'hui, qui me vient, de curiosité, d'envie, c'est le concerto pour cœur de Schmidtke, le samedi 26. Et puis, de cœur, c'est la symphonie de Mahler, la 5e symphonie de Mahler, parce que Mahler occupe une place très, très importante, très haute dans mon panthéon personnel. Et j'ai un amour assez immodéré pour ce compositeur.
Et puis le 27 avril sera l'ouverture de la billetterie à partir de 10h30 pour le grand public, avec évidemment différentes manières de réserver ces concerts.
Oui, vous pouvez les réserver évidemment par téléphone, par courrier, et puis sur le site internet de la Chaise Dure, voilà, qui n'a pas changé, qui est toujours le même.
Voilà, et puis pas de festival, pas de 57e édition sans partenaires, qu'ils soient publics ou privés. Public toujours présent.
Toujours présent, public, et on a la chance d'accueillir ce soir la présidente du département de la Haute-Loire, Marie-Agnès Petit, qui est le partenaire historique du Festival de la Chaise Dure, et sans qui rien n'est possible et rien n'aurait été possible. Et évidemment, les partenaires publics, toujours à nos côtés, qui font de ce bel événement quelque chose de possible. Et puis évidemment, toutes les petites communes qui nous accompagnent tout au long de l'année, et de manière très fidèle.
Et puis les partenaires privés, qui là aussi sont essentiels à la vie du festival.
Oui, et qui est là aussi, on a une vraie fidélité, et c'est une vraie fierté pour nous d'avoir un cercle de mécènes qui est très resserré autour du festival et qui, année après année, accompagne fidèlement. Et puis, cette année, on a un nouveau mécène qui nous rejoint, le groupe Néré, qui est à Saint-Étienne, et qui est c'est très important pour nous de compter parmi nos mécènes des entreprises du territoire. Parce que pour qu'un festival existe, pour qu'un festival devienne un festival de territoire, il faut aussi que le territoire se saisisse de ce festival. Et on est très fiers de ce nouveau partenariat.
Voilà, il s'approprie notamment avec le groupe Néré qui intègre le groupe des mécènes donc, du festival de la Chaise Dure. Merci Boris, bravo pour cette 57e édition et première donc, programmation que l'on vous doit. Alors, on imagine que vous êtes plutôt détendu, ce sera peut-être pas la même chose à quelques heures du début du festival. Alors on en reparlera dans les semaines qui viennent. On va terminer en musique, toujours accompagné de Théo Fouchneret. Puis après, on prendra un temps tous ensemble autour d'un cocktail, juste là dans le hall de cet auditorium Zifra. Et c'est donc Théo qui nous accompagne avec une partition de Félix Mendelssohn.
Merci beaucoup. Et puis à cet été.
Thank you.